Ce podcast est une production Blabla Studio.
Track Record, c'est le podcast qui donne la parole aux DJ. Vous entendez leur son partout, nous vous proposons ici d'écouter leur voix. Je suis Pauline de Saint-Sauveur. Après 10 ans passés en communication pour des grandes marques, je deviens rédactrice freelance, d'abord sur des sujets mode et beauté, puis je m'attaque à mon autre passion, la musique électronique. Track Record est né de cette envie, partager avec vous la découverte de personnalités tout aussi passionnantes que leur musique. Alors j'espère que vous aurez envie de monter le son et d'appuyer sur Play. Bonne écoute! Bienvenue dans Track Record, le podcast qui fait passer les DJ des platines au micro. Je suis Pauline de Saint-Sauveur et aujourd'hui, je reçois le duo de DJ et producteurs Alex Haim et Adrian Careno, alias Birds of Mind. Bienvenue à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 12e épisode de Track Record, en cette fin d'année qui s'annonce aussi joliment chargée pour vous que la hotte du Père Noël. Vous revenez en effet du Brésil pour une date à Paris, votre soirée Mind Game qui aura lieu le 16 décembre. Mind Game est aussi le nom de votre label dont on va parler un peu plus tout à l'heure. Mais laissez-moi d'abord vous présenter rapidement à ceux qui ne vous connaîtraient pas. Votre duo s'est formé en 2016 et a très rapidement connu le succès avec le titre Ankara, sorti en 2017 sur le label Ecolette et qui affiche aujourd'hui plus de 4 millions de streams sur Spotify. Vous avez produit 4 EP, dont les cartons Just Let Go et Ena Passionné en 2019, ainsi qu'un album Journey sorti en 2021 sur le label Kindish. Vous avez également remixé Depart pour votre label Mind Game en 2022 et l'année précédente Pulling Every String de Andy Caldwell. Vous avez parcouru le monde depuis Mykonos, puisqu'Alex a grandi sur cette île et que vous étiez résident au Scorpios jusqu'en 2018. On a pu depuis vous entendre dans des lieux aussi divers que Tulum ou Tel Aviv, en passant par Ibiza, où vous avez installé votre soirée Mind Game cet été au Lio, ainsi qu'au Void, toujours à Mykonos. Vous avez aussi mis le feu à Burning Man pour les éditions 2017-2019, ma préférée, on en reparlera, et 2022 sur le Robot Heart Boss, et on attend le 7 Robot Heart 2022 avec impatience. L'année 2022 aura aussi et surtout été pour vous l'occasion d'un tournant musical avec deux nouveaux titres, Mi Pena et No Time for Tears, sortis sur le label Get Physical. On y retrouve votre signature, des basses hypnotiques associées à des voix à l'étrangeté marquante, mais vous vous éloignez d'une tonalité jusqu'alors plutôt contemplative pour vous tourner résolument vers les dance floors et y apporter le soleil qui nous y manque cet hiver. En bref, je pourrais tenter de vous résumer à un duo d'oiseaux voyageurs qui nous délivre des cartes postales, à la fois musicales et cinématiques, visuelles et auditives, pour une expérience qui n'est pas que dans le son, mais aussi dans la sensation. Est-ce que ce portrait vous convient ?
Bah oui, très joliment écrit.
C'est très sympathique à entendre.
Merci, au moins ça convient à tous les deux, c'est parfait. Pour rester dans votre actualité, et sur la soirée du 16 décembre au Bridge, vous partagerez l'affiche avec Liberidge, Falberg et Amy. Donc c'est votre soirée Mind Game. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est né Mind Game et ses différentes ramifications aujourd'hui ?
Alors, Mind Game, c'est une idée qui a germé pendant longtemps, mais on est vraiment rentré dans la dynamique de créer et donner naissance à ce label pendant le lockdown. On a eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu'on voulait faire et comment on voulait développer un label indépendant. Et on a eu le temps vraiment de se poser tous les deux au calme. Parce qu'on a eu plein de moments calmes.
Et donc, ça passe par des soirées et produire des artistes. Donc là, on a parlé de Depart tout à l'heure, qui sont donc un duo turc, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Donc, ouais, comme je disais, c'est un label indépendant. Donc, l'idée, c'est de sortir des titres d'artistes, généralement, bon, des newcomers.
Ok.
Et bon, aussi...
quelques amis aussi. Proches de nous, on va dire. Sur la scène,
par exemple.
En fait, l'idée vraiment de départ, c'était un label de copains et que de la bonne musique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de ligne directive dans un genre. On n'est pas là pour faire de la hype, on est là pour
l'entente, quoi.
Ouais, pour les copains et pour la bonne musique, en fait. C'est ça, pour nous, l'essence de la fête. C'est un bon moment avec ses potes, sur du bon son. Et alors, du coup, forcément aussi, la label night.
Et pour vous, la soirée, vous la définiriez comment ? C'est quoi le... Parce qu'au Lio, moi, j'en ai vu une. Et au Void, à Mykonos, c'était la même chose ? Ou comment vous avez organisé ça entre les deux endroits cet été ? Parce que vous aviez deux mind games, si je ne me trompe.
Alors c'est vrai que c'était deux formats un petit peu différents, vu que Lio c'est un cabaret dîner qui se transforme en soirée, alors que Void c'est un lieu un peu plus underground, c'est un des seuls clubs qui ouvre la nuit à Mykonos. Donc forcément, c'est pas exactement la même capacité, c'est pas exactement le même type de soirée, du coup c'est vrai qu'on s'est adapté. D'ailleurs on a appelé la soirée à Lio Family Affair, où vraiment pour nous voilà, c'est une soirée plus entre amis, on essaie de créer un environnement un peu plus intimiste. Okay. Et Void, on a invité un autre style d'artiste, peut-être un peu différent.
Plus des newcomers un peu aussi.
On était toujours sur deux artistes invités.
Okay. Donc,
toujours un ouvreur et un artiste un peu plus confirmé. Donc oui, la vision était un petit peu différente.
D'accord. Et donc le 16 décembre, là, vous êtes sur quel concept par rapport au bridge?
On est un format un peu plus grand en format, vu que c'est, ouais, ça peut accueillir jusqu'à 2500 personnes.
C'est très, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très très grand. Il y a eu Adriatic qui a joué cette année, il y a eu Bedouin. Donc c'est des assez gros. Enfin, c'est plus gros que Lio, quoi.
Je pense qu'après, il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont plus grands en termes de capacité. Je crois qu'il y a T7. Et puis après, tout de suite, il n'y a plus, en fait.
Ouais, et puis en fait, cette soirée du 16 décembre, c'est vraiment un mélange entre ce qu'on a fait à Lio et à Void. C'est-à-dire qu'on a un artiste confirmé, c'est Liberich.
Ouais.
Et c'est de la musique qu'on aime. C'est de la musique qui nous ressemble un petit peu sur certains points. Et derrière, des amis qu'on a release sur notre label. Et c'est le soir de la sortie de leur EP.
Génial. Ok, donc on a une sortie de EP et une soirée le 16 décembre. Bon, on va aussi sortir l'épisode, comme ça ce sera fait. Voilà. Et on va partir, du coup, maintenant qu'on a un peu fait le tour de ce qui allait se passer ce jour-là, on va partir un peu dans le passé pour revenir aux origines de votre duo. Qu'est-ce qui vous a poussé donc individuellement vers la musique électronique? Alex, tu venais du cinéma et de la photo, si je ne me trompe pas. Et Adrian, tu avais un parcours qui était plus orienté vers le classique puisque tu as fait le conservatoire. Donc qu'est-ce qui vous a individuellement amené à la musique électronique d'une part? Et dans un deuxième temps, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à Paris, parce que je sais que vous avez tous les deux pas mal voyagé, ensemble à faire de la musique?
Alors moi, en ce qui me concerne, oui. Donc moi, j'étais dans le cinéma. Moi, j'avais une formation de comédien. J'ai fait deux écoles de cinéma, une aux États-Unis, une à Paris. Et je réalisais mes courts-métrages. J'ai travaillé avec une grosse boîte de production sur le scénario d'un long-métrage sur la musique électronique, l'histoire de l'ascension d'un duo de DJ. C'est marrant, puisque ça revient à l'histoire qu'on vit aujourd'hui.
Assez étonnant, ouais.
Ouais, et vu que j'avais une formation qui venait des États-Unis, j'avais fait les méthodes acting d'acteur studio, j'ai rentré toujours pour construire mes personnages, je m'imprégnais toujours à 100% de l'univers de mes personnages. Donc en fait, avec ma première paye, je m'étais acheté tout le matos pour mixer, et j'ai appris tout seul à mixer chez moi. Et quand j'ai vendu le projet final, le final draft du scénario à la boîte de prod, je devais reprendre les castings, et en fait, reprendre au bout de 2 ans, c'était compliqué, j'avais plus la même motivation, on va dire. Et j'ai commencé à mixer dans des bars, à Paris, à Mykonos, et de fil en aiguille...
T'es devenu l'acteur de ton...
C'est le Daniel Day-Lewis.
La vraie vie, quoi.
Mais c'est ça, c'est la méthode de Daniel Day-Lewis pour expliquer, par exemple, sur un film assez connu qui s'appelait Gangs of New York, Daniel Day-Lewis, qui joue quand même le rôle d'un boucher, a passé 1 an et demi à être boucher, et il a eu du mal à reprendre son rôle derrière parce que justement il se baladait la nuit avec des couteaux et il faisait peur à tout le reste du casting. Donc Alex, c'est quand même moins violent, mais il est devenu le rôle, en fait. Donc c'est rigolo.
C'est marrant. Il n'y a pas que lui, il y a aussi De Niro
qui est complètement
dans sa première apparition dans un film, il faisait juste un mec qui mangeait un hamburger dans un deli à New York. Il a passé 3 mois à bouffer un burger et regarder les gens manger leur burger dans le deli.
Ah ouais.
Moi, c'est une vraie technique de method acting, et moi, c'est vrai que ça m'a complètement décroché du métier d'acteur, même si c'est une passion que je garde au fond de moi, qui est la scène. Et
elle est quand même reliée.
Ouais, et en fait, le métier de DJ, finalement, ça me ramène toujours à mon métier sur scène, parce que moi, j'ai commencé à 11 ans de théâtre dans une troupe, et c'est vrai que ça me ramène toujours à mon jeu sur les planches. La seule différence entre le théâtre classique et la musique électronique, c'est que c'est tous les soirs une histoire différente, et il n'y a pas besoin de réciter le même texte avec la même intensité. Là, on peut vraiment jouer sur l'émotion face au public, sentir la pièce. Et
sur le moment présent et
sur le moment présent et contrôler l'énergie de la salle. Voilà, donc je m'exprime peut-être beaucoup mieux en tant que DJ sur scène que en tout cas je m'épanouis plus.
Merci l'acteur studio, en fait.
Ouais.
Et Adrian, toi?
Alors moi, j'ai commencé donc la musique classique très tôt. Mes parents m'ont poussé à être violoniste. je commence à sortir vers 16-17 ans, voilà, dans les clubs à Paris. Mais c'est vrai que j'ai eu une dualité. J'ai très vite senti que c'était ce que je voulais faire. C'était compliqué de me projeter réellement face à mes parents, face à la, voilà. J'étais quand même dans des études très spécifiques et c'était difficile. Il y a un cliché qui est un peu négatif autour de la musique électronique en conservatoire.
Qui y est encore, hein, d'ailleurs.
Ils comparent tout ça à de la musique un peu binaire, simple, pas très bien vue. Donc c'est difficile de s'assumer comme, voilà. Donc je fais un parcours où, en fait, j'ai continué le conservatoire, mais ça y est, je rêvais d'autre chose. J'ai fait un compromis, j'ai commencé à faire de la pop alternative, j'ai monté un groupe de rock, et vraiment, pratiquement 10 ans plus tard, j'ai rencontré Alex et je suis allé au bout de la musique électronique, mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à embrasser la vraie passion du début des clubs et de vraiment être DJ, parce que j'avais acheté des platines à 17 ans et j'ai commencé un peu vinyle, mais j'ai laissé tomber, et puis après j'étais un peu dans les studios d'enregistrement, j'aimais ça, j'ai commencé à aimer la musique de studio. Mais c'est vrai qu'aller en club et écouter des DJ, c'est vrai que...
C'était un peu ce qui
c'était un peu mon rêve.
Ouais, c'était ta passion cachée, quoi.
Ouais.
Un peu comme lui, en fait, au départ. Sauf que toi, c'est sorti, et toi, un peu plus tard, en rentrant, du coup, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Et toi, tu mixais déjà quand t'as rencontré Adriane, donc.
Ouais, en fait, c'est ça, en fait. Moi, j'ai rencontré Adriane via son meilleur ami d'enfance, qui est, lui, devenu mon meilleur ami quand j'ai déménagé, parce que j'ai vécu 6 mois en Chine. Et cet ami-là nous a plus ou moins... poussé à nous rencontrer et à s'asseoir ensemble. Et c'est vrai que, en fait, dès le premier soir, on s'est posé sur l'ordinateur, on a ouvert Ableton, et à 6 heures du matin, on avait fini en quart, donc premier track.
C'est dingue.
Oui,
ça
c'est
a commencé
dingue.
Très vite.
Ouais. Du coup, c'est parti très très vite. Moi, j'ai mis le morceau dans un podcast que j'ai posté sur mon SoundCloud perso, qui a été écouté par Francesca Lombardo,
qui était
une amie. Et qui est une amie et qui...
À qui on fait coucou, parce que...
Voilà, à qui on fait un grand coucou et on remercie beaucoup pour tout ce qu'elle a fait pour nous, parce qu'elle a tout de suite pris son téléphone, elle m'a appelé, elle m'a demandé c'était quoi ce morceau à telle minute, j'ai chasamé, j'ai pas trouvé, je lui ai dit mais c'est incroyable, je l'ai fait avec un copain hier soir.
C'est fou.
Et elle m'a
histoire.
Dit, bon bah je vous signe sur mon label, on avait même pas de nom.
Non, vous aviez moins de 24 heures en fait.
Ouais, on avait moins de 24 heures, c'était un peu un délire en fait.
Ouais. Ouais, mais du coup, c'est sorti quasi tout de suite, quoi.
Ouais.
Le temps juste que vous signez et puis...
Bah, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas encore de nom de groupe, on avait déjà une sortie...
Prévue
sur un petit label sympa. Et alors, Alex avait eu l'audace de prendre le track, le mettre sur une clé USB, il l'a présenté à Nu, qui est un artiste de Berlin, et il venait jouer à une soirée à Paris. Et du coup, il a fait écouter, nul a dit « Ah, mais moi, je le jouerai dans mon set. » Alors qu'en plus, il joue normalement que des tracks à lui. Et alors, c'est marrant, on arrive à la soirée, et il nous dit « Ah, mais je me suis douché avec ma clé USB, j'ai plus le track. »
Non, c'est une blague. Et vous aviez un double, non ?
Et Alex, très fort, très pro dès le début, avait dit « Mais attends, t'inquiète pas, je l'ai encore dans une autre clé. »
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il avait un double.
Et du coup, il a joué, il a closé avec le track...
Ah, c'est trop bien. Ça rappelle, franchement, ce qui est génial, votre histoire, elle me rappelle des histoires qui arrivaient, ce que DJ Grégory a pu me raconter dans les années 90, quand il y avait qu'ils arrivaient avec les vinyles de Faya Combo et qu'ils donnaient le vinyle, là, comme ça, je crois que c'est Masters at Work, et qu'ils ont donné, ils donnaient le vinyle pendant le set, et que le mec attrapait le vinyle et qu'il le jouait, et que là, d'un coup, c'était un peu la même chose, sauf que là, on est avec une clé. Ouais, mais c'est des histoires qui arrivent de plus en plus rarement, quoi.
Bah, c'est vrai que nous, par exemple, ça nous arrive jamais que quelqu'un vienne avec une clé en mode j'ai fait ça, mets-le.
Pour la petite anecdote, j'ai essayé de le refaire avec d'autres artistes et je me suis vraiment fait envoyer chier.
Ah oui, ouais.
Et c'est drôle, et c'est vrai que de temps en temps, ça nous arrive à nous qu'on vienne nous voir. Alors, vu qu'on l'a vécu, on l'écoute le morceau.
Ça allait être ma question.
On l'écoute dans le casque.
Oui, mais bon, c'est bizarre.
Mais parfois, on nous sort des vraies saucisses.
Ouais. Donc, évitez le barbecue, s'il vous plaît, merci. Voilà.
Depuis nos premières sorties sur le label Mind Game, c'est vrai qu'on reçoit de plus en plus de promos d'artistes et ça devient de plus en plus dur de choisir quoi sortir parce qu'on peut pas tout sortir d'un coup, qu'il y a du temps entre chaque release. Mais c'est vrai que c'est vraiment un honneur d'avoir des jeunes talents qui viennent et qui nous envoient leurs prémices, quoi. C'est vraiment sympa.
Oui, et pensez à faire des doubles, dit Alex aussi, morceaux, en garder pas qu'un. Et d'ailleurs, on va parler de vos inspirations à vous. Vous avez des inspirations qui sont géographiques et temporelles, parce que vous jouez avec différentes périodes de temps. par rapport à l'histoire de la musique, si de ce que j'ai entendu, et aussi géographiquement, vous avez tous les deux beaucoup voyagé, donc il y a aussi des inspirations pas du tout que d'Europe. Il y a l'Amérique du Sud, par Adrian aussi entre autres. Il y a pour moi les États-Unis aussi un petit peu dans certaines façons de construire la musique. Donc quels pays et quelles époques vous ont marqué particulièrement pour créer votre production Birds of Mine en fait.
Moi, je pense qu'en ce qui me concerne, sur mes inspirations, moi, j'ai grandi donc, voilà, sur une île en Grèce. J'ai passé tous mes étés là-bas depuis que je suis...
Voilà, Mykonos, ouais.
Et c'est vrai que Mykonos, bon, c'est pas Ibiza, mais c'est une île de fête sur laquelle la musique est très orientalisée. Donc moi, toute cette partie orientale, en plus, j'ai un père qui est né à Alexandrie en Égypte. Donc la musique orientale, c'était assez présent chez moi. Et ma mère, elle avait une énorme collection de rock. En fait, ma mère, elle m'a fait découvrir tout ce qui était les Pink Floyd, les Beatles, les Rolling Stones, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Et c'est vrai que j'ai toujours été un grand fan de toute la période Woodstock, tout ça, okay. Tout le rock années 60, 70. Et c'est vrai que, bon, dans notre musique, quand on a commencé à produire, il fallait qu'il y ait ces inspirations dans la musique, ouais.
Et puis vos points communs, parce qu'Adrian, pour le coup, t'as fait du rock aussi. Ouais, donc en fait, rock, vous êtes aussi retrouvé là-dessus au départ.
Du coup, c'est vrai que le rock des années 70, ouais, moi, j'étais vachement dessus. En commun avec lui, il y avait les Pink Floyd, mais il y avait aussi les Doors, les Zeppelin.
J'allais dire les Doors, ouais, pour certaines chansons. Ouais.
C'est vrai que c'était et puis en plus ils ont un peu cette manière un peu cinématographique de construire la musique, ils prennent leur temps. Ouais. C'est des on peut écouter des tracks qui durent 7-8 minutes, c'est un peu pareil dans la musique électronique, il y a des grandes intros, c'est une vraie petite histoire. Sur là-dessus après c'est vrai qu'on on est tous les deux aussi français, on a grandi avec la musique électronique des Daft Punk puis suivi de la vague numéro 2 avec Justice et Banger.
French Touch 1.0 2.0.
Ouais. C'est vrai que nous quelque part on sent les Parisiens français qui sont sur la troisième vague quoi, donc
un peu, mais vous il y a quand même une multiplicité culturelle qui est assez intéressante et qui fait aussi votre particularité. Bon, à chacun, et ensuite dans votre duo quand vous produisez, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'Adrian et moi, on s'est tout de suite retrouvés très vite dans la musique, donc sur le rock, mais aussi sur toute cette musique qu'on écoutait quand on sortait, depuis l'âge de 16 ans.
Ouais.
Et en fait, on partage cette culture. Et c'est vrai que quand on va à l'étranger, surtout sur les territoires américains, tout ça, ils ont pas vraiment... Donc à chaque fois qu'on ramène un peu cette petite touch, ça nous différencie vraiment des autres.
Oui, ils sont pas forcément habitués.
Ouais, ouais c'est
pour
ça.
Nous, ça nous paraît normal, mais eux.
Mais pas pour eux, ouais. Et vous avez beaucoup joué à l'étranger en plus au début. Enfin, vos débuts, vous êtes partis déjà beaucoup. Mais au départ, parce qu'il y a des artistes français qui commencent beaucoup en France. Vous, dès le départ, vous êtes partis en tournée, en tout ça.
Alors il y a une raison à ça, c'est que en fait nous à Paris, on était parisiens et les gens nous ont connus avant qu'on devienne DJ. Donc on a tout de suite été catégorisés comme.
Pourquoi ici?
Encore des mecs qui se prennent pour des DJ, il est où le talent,
les jugements parisiens,
c'est des mecs qui sortent, en fait ils sont connectés par leurs copains, et puis c'était aussi vachement dans des clubs tables, donc en fait on s'est tout de suite dit que c'était pas pour nous la scène à Paris, qu'on n'était pas compris, et en fait on a été reconnus pour nos productions à l'étranger, donc là ils nous bookaient à l'étranger, et ils nous bookaient pour notre musique, ils savaient pas qui on était, et c'est après en fait qu'on a gagné le respect, on va peut-être dire, de notre scène, et qui nous a donné des chances de s'exprimer, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est trop content de pouvoir jouer chez nous, de pas avoir à prendre l'avion. Ouais.
Il y a encore plein de gens qui savent pas que Birds of Mine c'est français en fait.
En plus déjà le nom est anglo-saxon, donc vous savez pas. Voilà. Et au Brésil, ils savent que vous êtes français.
Même pas vraiment. Ouais, c'est flou parce que Birds of Mine c'est tellement anglo-saxon. Mais même à Paris, de temps en temps, on nous arrête. Les mecs viennent nous voir pendant qu'on mixe en soirée et ils nous parlent en anglais. Et c'est marrant, on entend leur accent français, que c'est des bons français. Alors on fait non, mais on est français aussi, t'inquiète.
Vous êtes français.
C'est dingue.
Justement, on fait l'interview. Donc, on fait l'interview quand même en français. Donc, c'est bien, je vais pas la doubler cette fois. Ça, ce sera très clair que vous venez d'ici. Parce qu'il y en a, je l'ai fait en anglais, il n'y a aucun problème. Mais bon, je pense que c'est quand même intéressant que le public français vous découvre aussi un peu sur un long format comme ça. Ça, c'est cool. Et d'ailleurs, donc le Brésil en question, vous y avez passé beaucoup de temps cette année. Qu'est-ce que ça vous a apporté en termes d'inspiration parce que c'est un pays où quand même, vous avez, l'année dernière aussi, je crois, vous y avez passé pas mal de temps.
C'est-à-dire que c'est des petites tournées, c'est très court. Ça fait plusieurs dates, mais en termes de jours, c'est très peu.
Oui.
Après, le Brésil, c'est magique dans le sens où c'est toute une culture musicale très forte. Il suffit de sortir de l'aéroport, on rentre dans une voiture, ils allument la radio et c'est un florilège de bonne musique de toutes les époques. C'est juste génial. En plus, c'est dans notre inconscient. C'est juste incroyable. En plus, moi, je viens d'une musique latino-américaine. La musique brésilienne, elle est très présente. Alex, son père apparemment, il est fan de musique brésilienne aussi. Du coup, toi aussi, t'en as beaucoup écouté.
Ouais, moi j'ai grandi avec du Caetano Veloso toute la journée en boucle à la maison.
D'accord.
Donc ouais, c'est vrai que Bebel Gilberto, Caetano Veloso, tous okay. les grands artistes brésiliens. Mon père, il est vraiment fan. C'est limite, ça nous saoulait à la fin d'entendre ça toute la journée.
C'est quand même resté dans quand vous
ouais,
faites de la musique.
Ouais, en fait, c'est ce que disait Adrien, c'est qu'il y a vraiment il y a tellement de couleurs au Brésil, culturellement et artistiquement. C'est du bonheur d'aller là-bas. Ils ont la danse dans la peau, ils ont le rythme ouais. dans la peau, ils ont leur langue, elle est chantée. On y était la semaine dernière et partout dans la rue, que ce soit à Rio, à Sao, il y a de la musique en permanence. Ah ça oui. ne s'arrête jamais. Et on leur demandait, mais il y a un moment, ça s'arrête. Ah bah non. Ah bah non.
On dort même avec.
La police, elle vient jamais ouais. empêcher les gens de. Ouais. Elle vient jamais couper la musique. Ah non, mais la police, elle a autre chose à faire. Non, mais ici, nous, on vit avec la musique 24 heures sur 24.
Ça n'existe pas d'appeler et de demander à quelqu'un d'arrêter sa fête. Ça n'existe pas.
C'est tellement à l'opposé de notre culture ouais. à nous, à Paris, où dès qu'on met de la musique après 10 heures du soir chez nous, forcément, on a la police qui vient taper à notre porte parce que les voisins ne sont pas contents. Eux, c'est normal. Donc, c'est du bonheur, ouais.
Non, c'est sûr. Et surtout que, enfin, en plus, vous aviez pas mal d'inspiration sud-américaine déjà dès le départ. Puis ça rajoute de la couleur, le fait que vous étiez quand même dans le pays maintenant et que vous y ayez tourné, ça fera peut-être des morceaux un peu. Encore autre chose à suivre.
Ouais, c'est ton.
On va voir. Et on va reparler d'Onkara rapidement, parce que, bon, comme on a dit, il a été fait en 24 heures, ce titre. Donc même moins, une nuit. Et ça a été quand même très rapide. Il y a beaucoup d'artistes qui ne tiennent pas, c'est-à-dire que quand le succès arrive beaucoup trop vite, ça part aussi trop vite. Ça fait 6 ans, vous êtes encore là. Comment vous avez réussi à gérer ça, tous les deux et individuellement, sachant qu'en plus, vous ne vous connaissiez pas. Donc comment est-ce que vous avez réussi à gérer de Onkara jusqu'à maintenant? Est-ce qu'un moment vous avez dit « Ouh là là, ça va trop vite, on arrête ». Est-ce que le confinement a joué aussi un rôle, peut-être, dans le fait que... voilà. Comment vous avez géré ça?
Bah, du coup, ça arrivait très vite, oui et non, parce que vécu de l'intérieur, bon, le succès déjà, c'est très relatif. Et on est très ambitieux. Du coup, nous, on suit notre petit chemin. On essaye d'aller le plus vite possible. On reste concentré. Du coup, c'est difficile de déborder, on va dire. Parce qu'on est, voilà, Ankara, certains succès, mais nous, à ce moment-là, bon, on le voyait plus comme la première étape de.
Vous raisonniez sur le long terme, ok.
On raisonnait déjà sur le long terme, on voulait en faire notre carrière. Et ni lui ni moi, on voyait ça comme un petit passe-temps.
Comme un one-shot aussi, mais vous pourriez vous dire, on a fait une collab ensemble, ce qui arrive à certains artistes, et puis après, on va changer. Mais là, vous êtes toujours là, donc c'est plutôt cool, quoi.
Ouais, en fait, le truc aussi, c'est qu'on s'est trouvé un nom, et c'est vrai que je crois que notre nom, il a une vraie importance, en fait, dans notre histoire. Parce que et c'est un nom qui touche les gens. Et on a aussi un autre truc, c'est qu'on a plein de copains en commun. Et pour nos copains, qu'Adrien et moi on fasse de la musique l'un sans l'autre, c'est pas concevable. Donc en fait, on est toujours ramené à une unité. On s'est jamais disputé, on n'a jamais eu un mot de travers en 6 ans. Donc pourquoi arrêter une collab quand on a créé un lien, on a créé une fratrie en fait lui et moi. Donc
c'est génial. Ouais. En plus t'as répondu à mon avant-dernière question.
Mec. Voilà.
Non parce que c'est quand même, vous êtes un exemple assez rare de vraiment de spontanéité et de création où ça se passe. Et puis là je vous dis ça fait 6 ans. Je dis bon voilà ils sont encore là et tout va bien quoi. Donc c'était cool d'avoir votre petit votre ressenti là-dessus parce que vous en aviez pas parlé en interview ou alors on vous a pas posé la question. Je ne sais pas. On va parler du dernier EP, du coup, donc, où il y a Mi Pena et No Time for Tears. C'était une assez grosse évolution pour vous, quand même, vous l'avez dit. Vous avez une direction plus deep house. Et pour moi, Mi Pena, il y a une vibe qui est plus Ibiza, plus Balearic, quand même, que ce que vous aviez fait avant. Donc, qu'est-ce qui vous a fait évoluer dans ce sens-là, en fait, par rapport à ce qui a été fait précédemment?
Je pense que tu vas être d'accord avec moi, Adrien, c'est le Covid, en fait.
D'accord.
En fait, on s'est retrouvés enfermés chez nous, à pas savoir où allait l'avenir, comme la plupart des artistes. Est-ce que les soirées allaient reprendre un jour? Est-ce qu'on allait garder des masques? Est-ce qu'on allait pouvoir se réunir un jour tous dans la même salle, à redanser? C'était vraiment une période où tout le monde a vécu la même sensation. On savait pas de quoi allait être fait l'avenir. Et dans la musique, et surtout voilà dans la techno, dans la musique électro, il y avait un véritable élan de musique, on va dire un peu dark. Et les gens, ils aimaient bien ce côté dark.
Vous aviez un peu avant aussi, ouais.
Et nous, on avait peur de ce côté dark parce que ça ramenait un peu au démon et à la peur de l'avenir. Donc, on s'est tout de suite dit que tout ce qu'on allait produire, c'était bonheur.
Okay.
Donc, sensation plaisir, sensation bonheur.
Plus festif aussi.
Plus festif.
Moins introspectif. Ouais. Parce que c'était quand même assez introspectif avant.
Voilà, et plus aérien, plus. On ciblait vraiment le plexus solaire, quoi, l'ouverture du chakra du plexus solaire. Parce que c'est cette sensation de bonheur, c'est vraiment ce qu'on voulait offrir aux gens, en fait.
Ok. Et Journey avant, c'était quel chakra?
C'était plus introspectif.
Pas la même chose, c'était plus. Mais c'était moins. Et justement, il y a une. Enfin, pour moi, Journey, c'est un très très beau travail d'introspection, de voyage et tout. Et il y a vraiment, quand je vous dis des inspirations temporelles, géographiques, on les sent et c'est. Voilà, mais il y a. Après, vous passez sur complètement autre chose.
Le truc, c'est qu'un producteur, quand il fait un album comme Journey, tout ça. Il le fait, en tout cas, ça a été fait avant de connaître vraiment toute la dimension club de cette musique jouée en club. Alors qu'avec Mi Pena, No Time for Tears, il y a une compréhension, il y a une expérience.
Il y a votre expérience de club.
C'est 6-7 ans en club à savoir quand est-ce que les gens dansent, ne dansent pas. Ça, c'était presque impossible de le faire au début de Birds of Mine. Aujourd'hui, on a réussi à transpasser ça. Et du coup, on arrive à pouvoir faire danser les gens avec nos prods.
Oui,
c'était moins le cas avant.
Ouais, alors en fait c'était moins le cas avant, et c'est surtout que quand on envoyait les promoteurs sur nos SoundCloud, ils se visualisaient pas booker Birds of Mine en prime, en fait. C'est-à-dire que c'était bien pour de l'opening, c'était bien pour du sunset, mais c'était encore trop léger et trop down tempo, on va dire presque. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, nous on a voulu évoluer aussi sur le dance floor, on voulait accéder à des horaires beaucoup plus prime. On savait que le meilleur moyen c'était de sortir des tracks qui allaient être joués partout sur Terre en prime, et ça c'est ce qui fait que les promoteurs ils
bien sûr derrière. Et donc Mi Pena, ça vous est venu parce que vous avez commencé à tourner à Ibiza, ou c'est juste parce que, enfin, comment c'est venu Mi Pena en fait par rapport
non,
à...
Non, c'est un morceau qui est venu dans un lot qui a été un peu pendant le confinement.
Okay.
Et voilà, on en a fait quoi, 10-12, et celui-là il est ressorti dans les premières fois on a joué. Enfin, c'était évident quoi, et tout de suite il y a une réaction du public qui fait qu'on a compris que ce track est un peu...
Qu'il se passait quelque chose.
En fait, je sais pas si on peut parler pendant ton podcast, mais c'est vrai que bon, nous on est underground, donc on a fait beaucoup de soirées clandestines pendant le Covid.
Oui, oui. J'ai un souvenir vague.
Voilà. Et donc, justement, Mi Pena, c'était dans l'eau des tracks qu'on a testé pendant le Covid, dans les soirées clandestines. Et il y a eu une réaction immédiate sur Mi Pena. Donc, en fait, on l'a vraiment peaufiné, on l'a travaillé et on s'est dit que c'était une voie... C'est un peu comme les chercheurs d'or, en fait. On commence à trouver un fil et on va chercher... on creuse la mine pour aller chercher encore plus loin les grosses pépites. Donc voilà, on est parti sur cette fréquence et on y allait à fond, quoi.
Ouais, parce qu'il remet vraiment de la lumière. On peut jouer... je vous ai vu le jouer à l'Alma il y a 15 jours. C'était... ça change le club, en fait. Ça change même la tête des gens qui dansent. Enfin, Et j'ai vu d'autres artistes le jouer. C'est pareil. Enfin, il y a un vrai truc. Après, quand c'est le vôtre, les gens sont tellement... Il y a une joie supplémentaire, disons.
Ouais,
et même vrai. Dans le public et tout. Et tout le monde reconnaît. Tout le monde sait que c'est vous. Donc, c'est quand même super cool aussi, quoi. Et No Time for Tears, ça reste ma préférée. Donc, comment est-ce qu'elle est arrivée là, elle?
Sur la même continuité, en fait...
J'aime toujours les Fast B ou les Outcasts. Moi,
en fait, on avait 3 EP signés chez Get Physical. Et en fait... Mi Pena était franchement la plus festive. Et du coup, on a remplacé le deuxième par No Time for Tears,
d'accord,
qui revenait un peu plus dans la veine.
Oui, quand même, il y a des points communs, du coup.
Parce qu'en fait, Mi Pena, au moment où on a signé les 3 EP, c'était un peu l'ovni du projet.
Okay.
Et du coup, maintenant, c'est devenu plutôt ce qu'on... Voilà, on veut plutôt aller chercher cette veine.
Oui, la locomotive du train. Ok. Et du coup, donc là, c'est plus une question pour Adriane. Le contraste entre les titres, parce que les deux titres, ça parle quand même de rupture. Et la joie qu'il y a dans les titres, parce que No Time for Tears, il y a une joie de dingue, en fait. On la sent après. C'est peut-être moins immédiat que Mi Pena pour moi, mais elle arrive quand même. Comment vous avez travaillé ce contraste-là, en fait?
Le contraste, il est... Et il peut être de plein de manières. Bon, déjà, il y a les graves, il y a les aigus. Mais oui, moi, j'aime bien cet aspect qui peut être très dansant, festif, mais qui, en même temps, est un peu nostalgique et assez triste. Cette dualité, elle peut transcender vachement. Sur un dance floor, ça peut être assez fort. C'est vrai que nous, on cherche vachement ce... Parce que bon, c'est comme une recette. De toute façon, s'il y a trop de sucre, c'est trop sucré. Voilà, faut qu'il y ait un peu de tout pour créer un truc fort. Et quelque chose de très dansant avec un aspect assez triste, c'est toujours... moi, j'ai toujours aimé.
Ok, parce que c'est quand même assez... Enfin, c'est un peu un numéro d'équilibriste, quoi.
C'est une petite équation.
Ouais, d'accord. Donc, chercheur d'or et mathématicien, pas mal. Et du coup, cinéaste, Alex, pour les pochettes, comment c'est venu cette histoire de Roy Lichtenstein et de femmes
qui
pleurent? Et surtout très pop, parce que toutes vos pochettes d'avant, qui étaient très belles et très graphiques, c'est du noir et blanc. Là, ça, c'est un peu différent.
Ouais, alors en fait, bah, ça dans, parce que c'est une trilogie. Mi Pena, No Time for Tears et le prochain EP qu'on on dit rien pour l'instant.
On dit rien, d'accord.
Voilà, c'est ça va ce qui va sortir sur Get Physical. Et pourquoi le pop parce que en fait à la base en, dans la famille on est, mes parents ils sont assez fans de du pop art et du coup j'ai fait plein d'expos plus jeune et c'est vrai que Roy Lichtenstein c'était quelque chose qui revenait souvent à la maison et même les couleurs Calder tout ça donc en fait c'est un hommage à la femme okay. Cette trilogie c'est un véritable hommage à la femme et moi j'ai toujours aimé les pochettes de Roy Lichtenstein avec ces femmes qui faisaient ces dialogues de souffrance, de est-ce qu'on se remettra ensemble, ces messages d'amour comme ça, très féminin. Et vu que c'est, je sais pas, quand il a fallu penser à une pochette, c'est vrai que on a tout de suite été d'accord pour aller dans cette voie-là. Et puis aussi parce que les lumières, elles sont gays. Et
ça apporte un peu.
Et ça change en fait de tout ce qu'on voit. Voilà, c'est. On a tout de suite été d'accord. C'était différent. Ce qu'on faisait, c'était différent. Il fallait que tout soit différent jusqu'au bout. Quoi.
Oui, visuellement aussi. Ouais. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce qu'a expliqué Adrien, il y a le même contraste aussi dans le visuel. C'est-à-dire que tu as une femme qui est magnifique, etc. Et il y a quand même une larme, un truc.
Ouais, voilà.
Tu as une beauté, une joie, quelque chose dans la couleur. Et puis tu as un petit détail qui fait qu'en fait, bah, elle est quand même un peu triste. Quoi. Mais il faut regarder. La première chose que tu vois, c'est les couleurs et le fait que ça. C'est des couleurs pop, quoi.
En fait, c'est une trilogie qui raconte une vraie histoire. Parce que le premier tome, c'est bon, Mi Pena, c'est ma peine.
Oui.
C'est la souffrance d'une femme. Les paroles, c'est une histoire d'une femme qui est manipulée, battue et trompée par son conjoint et qui exprime sa peine. Le deuxième tome, No Time for Tears, c'est qu'il n'y a plus le temps pour les larmes, en fait. Là, c'est le moment de se reconstruire.
De passer à autre chose, ouais.
Voilà. Et la troisième partie, bah, ça va être la partie beaucoup plus lumineuse. C'est l'avenir. Donc, c'est passé, présent, futur. Et voilà, tout dans cet ensemble pop art.
Super. Bon, on attend le tome 3 avec impatience. Vous avez l'air aussi heureux dans des petits clubs que dans des gros festivals quand vous jouez. Est-ce que vous préparez différemment un bridge, par exemple, et un void ? Que votre préparation, elle diffère ou pas du tout ? Vous avez juste votre... Enfin, vous en discutez avant et puis ben, ça.
On ne prépare pas tout à fait tout pareil.
D'accord.
Après, c'est sûr que, là, par exemple, à Burning Man, les sets sont enregistrés.
C'est ce que j'allais dire pour Burning Man, c'était ma question d'après.
Donc du coup, c'est vrai que là, comme c'est enregistré et puis il y a beaucoup d'écoutes sur SoundCloud et sur Internet en général... On s'est vraiment préparé, même déjà un peu pendant l'année. Il y a des trucs qu'on met de côté. On se dit, ah, ça, c'est pour le burn.
Ça, c'est pour le burn. OK.
Après, en club, ça dépend de la taille du club. Et ça dépend des villes. Il y a des villes où on a énormément d'amis qui viennent. Du coup, bon, ça rajoute une petite pression en plus.
Et vous jouez pas forcément les mêmes trucs.
J'ai envie de répondre et je vais être honnête. On prépare pas. C'est vrai, on prépare pas le set. Morceau par morceau.
Ah non.
On part avec une intention. C'est-à-dire que l'intention, c'est très important. C'est quelle intention on va mettre
dans ce
dans
lieu.
L'énergie qu'on va mettre dans la pièce ce soir. Et c'est vrai que c'est pas la même quand on joue pour 2, 3, 4, 5 000 personnes ou quand on joue pour 400, 300, 200 personnes. Là où on prépare, c'est qu'on digue. On est tous les deux des gros diggers. On adore ça. Et puis c'est une petite compète entre nous aussi. qu'on aime bien.
Est-ce que vous vous montrez les nouveaux trucs avant d'aller jouer ou vous le faites sur le moment ?
Alors,
vous le mettez au casque, genre tiens.
On a un système bien élaboré. On a une Dropbox avec chacun sa Dropbox et on se partage les Dropbox. Comme ça, lui, il sait ce que moi, je vais plus ou moins jouer. Moi, je sais ce que lui va plus ou moins jouer. Mais il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de directive. Après, c'est du freestyle. C'est vrai que le freestyle, c'est ça aussi. C'est qu'on vit avec si on commence à jouer un morceau et on sent que ça bouge pas trop, on va partir sur autre chose pour aller chercher c'est quoi la fréquence, qu'est-ce que les gens ils veulent ce soir, dans quelle humeur ils sont, parce que les gens sont jamais dans la même humeur, c'est jamais la même, tu fais jamais le même temps, c'est jamais les mêmes villes, c'est jamais les mêmes cultures, c'est jamais, donc voilà, il faut s'adapter et il y a un moment où on joue pour soi. Et ça, c'est un parti pris que beaucoup d'artistes font. Est-ce qu'ils jouent pour eux ou est-ce qu'ils jouent pour leur public ?
C'est notre grande discussion depuis 3 épisodes avec tous les artistes.
Voilà. Nous, on aime jouer pour le public, mais on aime jouer notre style. Et je pense qu'être versatile aussi, c'est notre touch, quoi.
Oui, puis c'est le fait d'être deux et d'avoir, là, je trouve, l'excellente communication que vous avez entre vous. Donc ça permet aussi de vous adapter super vite, quoi. Donc c'est ça qui était intéressant. Enfin, à l'Allemagne, vous voyez, en fait, je voyais la musique changer, vous vous regardiez. Et d'un coup, ça changeait, ça partait dans autre chose. Et vous étiez rien dit.
C'est vrai qu'au début, on parlait beaucoup, beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on...
Ouais, il n'y a plus trop besoin.
Déjà, rien que chacun mette son track, ça dirige sans parler. On sait déjà...
Voilà.
On prend l'intention.
Et donc Burning Man, du coup, est-ce que vous pouvez me raconter 2019 et 2022 sur le Robot Hot Boss? C'était quoi un peu la différence d'évolution, parce que vous l'avez fait deux fois? Parce que 2019, c'était mon préféré, mais je n'ai pas encore écouté 2022.
Voilà. À 2019, on a eu énormément de chance. On n'était pas programmé pour cette heure-là. Et en fait, le bus, le jour J, on arrive et il était en panne. En fait. Donc, le temps qu'il le répare, c'était plus ou moins fini.
D'accord.
Comme en fait, chaque année, il y a une galère.
Toujours un truc. Ouais. Et du coup, bah, on a eu la chance d'avoir le créneau qui est le dimanche matin. C'est un des meilleurs, machin. Et ça dure 3 heures.
En fait, c'était le créneau de Carl Cox.
Mmh. Oui, tu m'avais un peu expliqué.
Et Carl Cox n'allait pas jouer ce jour-là parce qu'en fait, il avait accepté de jouer sur Disco Night. Il voulait pas trop jouer. Et il du coup, Jason Swamy, qui est un des trois fondateurs de RoboArt, et il nous a dit « J'étais tellement triste que vous jouiez pas mardi soir. Est-ce que vous voulez ce créneau-là après le Sunrise, joué par Rufus du Sol ?»
C'est compliqué de refuser.
Ouais.
Nous, on était là, nous.
Oui, c'était là. Mais ouais, en plus, vous avez pas dû. Vous avez dû dire « Ok, bah, c'est bon, on jouera pas. On va aller se promener. » Enfin, voilà, quoi. Non, un peu. C'était pas ça. Et d'un coup, on vient le chercher en disant « Bah, en fait, les mecs, vous allez jouer, quoi. »
Mais c'était pas le même jour, c'était pas le même jour.
Oui, oui, non, mais vous étiez resté, vous aviez été peut-être voir des copains, enfin, je sais pas.
En fait, on a croisé Jason plus tard dans la semaine qui nous a dit tellement désolé pour le bus qui marchait pas, il y avait un problème de batterie. Bon, je vous reprogramme pour le slot de Carl Cox qui est special guest. Alors là, on s'est regardé, on a dit
qu'est-ce que c'est que ça.
On est embellie de cette panne.
Couru au camp, préparer la musique.
Ouais, ouais, non, ça je comprends. Et du coup, 2022, quand même plus facile, quoi. Il y a encore eu une panne.
Bah, en fait, déjà, il y a eu 2 ans sans Burning Man.
Oui.
Du coup, on a riche. Et du coup, moi, en fait, je suis tombé malade au 4e jour.
Oh non.
Donc, j'ai pas eu de chance. J'ai quand même tout fait pour être sur le bus. Je suis monté sur le bus, mais c'était juste pas possible. J'étais trop mal. Du coup, Alex l'a fait seul.
Ok.
Tristement. En plus, j'ai pas pu l'écouter parce que j'étais vraiment pas bien. Je suis allé me coucher. J'ai dormi 14 heures.
Ah, l'horreur. Ok. Bah écoute, on écoutera avec plaisir quand même, en espérant que la 2023, du coup, vous serez tous les deux.
Avec grand plaisir.
Et qu'il n'y aura pas de panne de bus, surtout. Ou d'électricité, le problème, c'est les power cuts. Paraît-il. Genre quand t'as les power cuts, que tout se coupe, quoi. Que parfois l'électricité, genre générateur, machin.
Ouais, non, parfois aussi, il y a comme du sable, les platines, elles
prennent le sable, ouais, aussi.
Elles bug, elles peuvent dérailler un peu. Mais ils sont très, très bien équipés.
Il y a des glitches et tout. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment préparés à ça.
Ils ont des
bonbonnes d'air sec, ouais. Tout ça, qui font qu'ils sont nettoyés rapidement, les platines.
Ça bug pas très longtemps en général.
D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, le dernier RoboArt, on a joué avec ton dernier guest qui était Patrice Baumel.
Oui.
Et on a joué juste après Patrice, juste avant Liberidge.
Ouais. Ah, c'est dingue!
Ouais,
ah,
c'est marrant. Donc, en fait, c'est marrant parce qu'avec la soirée de ce soir, tout est lié. Quoi.
Non, carrément.
Puis on est des gros fans de sa musique. Donc, c'est vrai qu'on l'a invité à jouer avec nous à Void cet été. Une des meilleures musiques qu'on a eues.
Elle est vraiment bon pour le coup.
Patrice, if you're listening to us, hello. Donc, pour la question qui s'appelle dans ton casque, un peu hors champ, qu'est-ce que vous écoutez quand c'est pas de la musique? Des podcasts d'art ou de cinéma pour Alex, je sais pas. Adrien, est-ce que t'écoutes toujours de la musique classique quand t'écoutes pas d'électro? Ou peut-être rien, justement, vous mettez un anti-bruit dans l'avion parce que vous en pouvez plus. Dites-moi.
Alors moi, je continue à écouter beaucoup de musique classique, beaucoup de piano. Après, j'aime bien aller au concert, mais c'est très dur d'avoir des places au bon moment et qu'on soit à Paris à ce moment-là. Ouais, je suis tout le temps sur les programmations et tout. J'ai extrêmement de mal à trouver ce que j'aime et être là le jour J. Mais sinon, ouais, beaucoup de classiques dans les oreilles et beaucoup de silence aussi. Hein. Je me rends compte, on est constamment entouré de bruit. Et c'est vrai que de plus en plus, je coupe la musique. Je demande au driver de pas mettre de musique. Quand je suis chez moi, j'écoute de moins en moins. En fait, entre le moment où on doit en faire, le moment où on doit diguer, le moment où on est en club, c'est quand même énormément de temps avec du son autour de nous. C'est vrai que souvent, un peu de calme, ça fait du bien.
Sauf au Brésil.
Ah, au Brésil.
Sauf au Brésil. Mais sinon, t'as plus aller dans du calme et à être un peu, justement, avoir de la place pour que ça puisse un peu décanter, quoi. Pas être tout le temps dans. Alex?
Alors moi, j'écoutais avant beaucoup de musique de film. Alors je continue toujours à en écouter. Je suis très fan de Ennio Morricone, Goran Bregovic, Eric Serra, tout ça. Enfin, moi, les grands compositeurs de musique de film, je suis très, très fan. Et sinon, ce que j'écoute de plus en plus à la maison, alors c'est intéressant, parce que c'est vraiment quelque chose qui est venu pendant le Covid, j'écoute pas mal de fréquences. Et ça me détend.
Voilà. Ça va être ma question presque d'après.
Ah, bah, okay. Voilà. Alors moi, je suis sur une application et je la recommande vraiment à tous les gens qui écoutent ce podcast, qui s'appelle Endel. C'est une application qui a été créée par Etchiotin. Il fait lui-même les fréquences. Et il y a pour dormir, il y a pour se relaxer, il y a pour travailler. Et c'est vrai que encore hier, j'étais avec ma sœur et je lui faisais découvrir des fréquences sur l'application. Et c'est vrai que c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable d'écouter autre chose. Ça détend beaucoup. Et après, moi, j'écoute parfois des podcasts d'entrepreneurs. J'adore les masterclass de grands réalisateurs, de grands maîtres, en fait, du cinéma. Et voilà.
On vous mettra le lien pour Endel sur les notes de l'épisode, ouais. Du coup. Et pour votre actu, donc on a dit que 2023, il y aura un nouvel EP sur Get Physical qui est prévu. Et la suite de la tournée, j'imagine que vous allez tourner encore début d'année prochaine, ou vous faites un petit break?
Non, là, on part juste avant Noël, on va faire Casablanca et Monaco. Après, on part à Bali et on vient d'avoir notre visa pour les États-Unis. Donc, on va retourner faire une grosse tournée aux États-Unis, Amérique du Nord, Amérique du Sud, parce qu'on n'y est pas vraiment retourné depuis le Covid. Et après, on va retourner, voilà, jouer en Europe, préparer peut-être des prochaines main games comme Sao Paulo en avril. Et puis, on a re-signé pour nos résidences cet été. Donc ça, déjà, d'accord, c'est sûr qu'on sera au rendez-vous.
Voilà. Génial. Ah ben, on vous attend cet été. Donc, pour Remind Game, et le Void et le Lio.
Ouais.
Ça, génial. Ah ben, on est content. Avec encore d'autres surprises et d'autres invités.
Ouais, avec plein de surprises au niveau des line-up et de la déco, la scéno. Voilà, plein de choses.
Génial. Et donc, on va arriver sur la dernière question qui s'appelle Bonus Track. Elle est différente pour chaque invité. Pour vous, on a commencé à parler de fréquence avec Alex, mais vous avez une dimension spirituelle dans votre travail qui est présente depuis vos débuts, parce que vous avez ou des chants anciens, même au départ, que vous utilisiez, ou des musiques un peu anciennes, des sons qui ne venaient pas forcément de notre contemporanéité, de ce qu'on connaît, quoi. Vous avez mis quand même dans l'électro, un petit peu. Vous avez ce travail aussi dans les visuels, c'était un travail de voyage aussi, avec tout ce qui était un peu, pas illusion d'optique, mais il y avait un travail sur l'optique aussi, je trouve. Comment est-ce que vous cultivez cette identité un peu spirituelle en duo, les Birds of Mine, du coup, et chacun de votre côté? Le nom, il n'est pas là par hasard non plus, donc on a commencé à en parler.
Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai que moi, j'ai fait les médecines à base de plantes, donc tout ce qui est ayahuasca...
Comme Patrice Baumel, voilà, voilà.
Le Cambo, le San Pedro, le Peyote, tout ça. Et voilà, moi je suis assez fan de ça, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que tous les chants spirituels,
qui accompagnent,
voilà, c'est très fort.
Ok, donc c'est quelque chose qui guide un peu les recherches aussi en musique et sur les directions.
Ouais, en fait, Icaros, les chants, il y a une grande chanteuse de ces chants qui s'appelle Norma, et la maman d'Adriane s'appelle Norma. Donc coucou Norma.
D'accord, ok.
Et c'est vrai que du coup, Adriane, il a pris ça à cœur, et on a tout de suite dit qu'on allait incorporer ces chants dans nos morceaux. C'est vrai que c'est pour ça qu'au début de nos tracks, comme par exemple Lost in Sian Can, ou un track qui s'appelle Norma aussi, qu'on a fait, et c'est vrai que voilà,
il y a ces chants un peu, justement, bah après les chants féminins, là maintenant ils ont un peu évolué, mais ça venait de là au départ, c'est ça?
Donc, exactement. Bon,
justement, cette, un peu la voix de la terre-mère, quoi. C'était un peu ça l'idée.
Ouais.
Ok.
Et après aussi dans la musique, c'est une succession de couches de fréquences. Et c'est vrai que c'est physiologique, mais il y a des fréquences qui transpercent le plexus solaire par exemple, qui l'ouvre machin. Et c'est vrai que certains accords, certaines harmonies font que quand on est sur scène, en plus les sound systems sont très forts. Du coup, ça crée un vrai truc assez fort. Par exemple, on a un ami à Los Angeles, il est sourd muet, il adore venir. Et en fait, il est là, il est heureux parce que lui, il ressent vraiment toutes ces fréquences, mais pleinement, et il va voir d'autres DJ et pas du tout, en fait, il les a pas.
Oui, mais c'est de votre partie. Enfin, pour moi, c'est vraiment une particularité et qu'on sent, en fait, dans.
Et nous,
dans
je pense qu'on a besoin, nous, en plus, d'être baignés dans ces fréquences pour sentir heureux, quoi. Parce que sinon, si on les a pas, je pense qu'il y a un petit peu.
Oui, puis c'est votre équilibre aussi, en tant qu'artiste, d'avoir ça, parce que le fait de vivre dedans, ça vous permet aussi d'avoir un équilibre, de pouvoir voyager, d'être. Voilà.
Un set réussi avec la musique qu'on aime et tout, vraiment, on en ressort. Vraiment heureux, quoi. Je pense que c'est même au-delà juste d'être fier de nous, c'est qu'il y a un truc
ouais, plus global, disons.
Ouais.
Et peut-être un truc qui fait que justement après 6 ans vous vous êtes pas disputé une seule fois, tiens. Peut-être le travail sur les fréquences, non, je sais pas.
Peut-être.
Vous avez sélectionné un set pour accompagner cet épisode, c'est votre dernier set Mind Game. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Oui, alors en fait, on a enregistré notre dernier set au Lio, c'était la closing party. Et du coup, bah voilà, on l'a enregistré, ça dure à peu près 2 heures, et il est sorti la semaine dernière sur notre SoundCloud Man Game. Donc voilà, on est très content que ça soit la première pierre à l'édifice de cette série de podcasts. Donc voilà, c'est Man Game série show.
D'accord. Bah on mettra bien le lien dans les notes de l'épisode pour que.
Parfait. Ouais, toutes les semaines, on a un nouvel épisode qui sort.
Ah oui, c'est hebdomadaire.
Okay. Ouais, cette semaine, c'est Amy et Falberg qui sortent leur nouvel EP chez nous, qui sort justement.
Le 16.
Voilà, The Way. Amy et Falberg, avec remix d'Anthony Middleton et Two Faces.
Donc, on vous recommande aussi le SoundCloud de Mind Game si vous n'étiez pas déjà dessus. Alex et Adriane, c'était un plaisir de vous recevoir pour ce 12e épisode de Track Record. On vous souhaite une très belle fin d'année, une très belle soirée avec Mind Game ce soir, et on a hâte de vous retrouver derrière les platines et surtout avec d'autres morceaux en 2023. Merci à vous.
Merci Pauline.
Merci, à ce soir.
On dit parfois que l'électro est froide, sans âme, car composée avec des machines. J'espère que ce podcast vous a prouvé le contraire, car il me semble qu'il faut encore plus d'humanité pour produire une musique de ce type, qui puisse rassembler autant de gens dans une communion et un engouement qu'on voit rarement ailleurs aujourd'hui. Si vous voulez soutenir Track Record, n'hésitez pas à partager ce podcast et à nous laisser vos commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et à très vite pour un nouveau Track Record.